Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver pour une nouvelle conversation. Et Daniel, la semaine dernière, on parlait avec vous du chaos mondial composé de plusieurs conflits qui devenait en fait un seul chaos avec un seul grand conflit. Et ça a donné naissance à deux camps, hein, à savoir le camp des démocraties et puis le camp des autocraties. Alors justement, nous, ce qu'on aimerait savoir sur Radio Judaïka, c'est quelle est la position d'Israël dans cette situation? Comment Israël gère tout ça? Et surtout, que peut faire Israël?
Oui, c'est une très bonne question. Si vous voulez, on parlait de la fusion des conflits. Elle se fait sous nos yeux en ce moment, hein. Chaque jour apporte une confirmation de cette fusion de conflits. Et alors la situation d'Israël avant la fusion, avant ce dont on a parlé la semaine dernière, elle était un tout petit peu plus confortable qu'aujourd'hui, parce qu'après la fusion, c'est plus difficile. Avant la fusion, elle arrivait à avoir ce qu'on appelle des marges de manœuvre. Alors les marges de manœuvre en termes géopolitiques, ça s'appelle l'autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'Israël pouvait arriver à faire valoir, à privilégier au fond ses intérêts nationaux vitaux, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux des Américains ou ceux des Européens ou ceux des Japonais, ceux qui font partie du même camp des démocraties. On voit bien que le camp des démocraties partage des valeurs, bien sûr, mais ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est ça les priorités. Au fond, pour les Américains, la priorité, ils le disent, et même en pleine guerre d'Ukraine, la priorité, c'est la Chine. Pour les Européens, la priorité, c'est l'Europe, donc c'est-à-dire la guerre en Ukraine, parce que ça se passe sur le sol européen et ça menace évidemment toute la prospérité et la paix de l'Europe. Pour Israël, on sait que la véritable priorité, c'est l'Iran, c'est la menace iranienne. Et ce qui lui a permis jusqu'ici d'avoir des marges de manœuvre, c'est qu'elle arrivait à convaincre les Américains qu'elle pouvait quand même continuer à avoir des liens importants avec la Chine, d'autant que les autres amis des Américains, les Européens et les Japonais continuent à travailler avec la Chine, et que même les Américains, non seulement continuent de travailler avec la Chine, mais finalement, quand ils se rencontrent, souvenez-vous de la rencontre de Xi et de Biden à Bali en novembre, se sont dit, n'allons pas trop loin dans la confrontation. Donc vous aviez un scénario qui permettait à Israël de dire, bon, laissez-moi travailler tranquillement avec la Chine. De même, avec la Russie, il était encore possible pour Israël de dire aux Américains, bon, laissez-moi parler avec Poutine parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de bombarder les bases iraniennes en Syrie qui me posent un problème existentiel. Et donc, pour ça, j'ai besoin de l'accord explicite ou implicite de Poutine. Donc, si vous voulez, cette situation était gérable. Maintenant que les conflits ont fusionné, c'est beaucoup plus difficile pour Israël d'avoir donc cette autonomie stratégique parce que Israël a de plus en plus besoin de l'Amérique. Elle a besoin de l'Amérique face à l'Iran, puisqu'on arrive à une situation où il semble bien que l'Iran soit arrivé à devenir ce qu'on appelle un pays du seuil. Donc, elle n'a pas la bombe, mais il suffit qu'elle décide de l'avoir pour l'avoir. Donc, à la limite, elle peut même s'arrêter là. On pourrait même imaginer, disions-nous la dernière fois, l'Iran proposer un accord. L'accord de Vienne pourrait se signer, ce serait une catastrophe pour Israël, ce serait un très mauvais accord, mais au fond tout le monde signerait avec un grand ouf de lâche soulagement. De même, par rapport à la Russie, c'est très difficile aujourd'hui de parler à Poutine. Plutôt pour la Chine, pour Israël de parler à la Chine, dans la mesure où la Chine et Poutine semblent être dans le même camp.
Mais est-ce qu'on peut dire que finalement Israël n'a pas d'autre choix que de s'aligner totalement sur la position américaine, Daniel?
Alors, il lui reste des marges de manœuvre à l'intérieur de ces marges de manœuvre. Au fond, la raison principale, c'est que ce camp des autocrates, finalement, il n'est pas si solide que ça. Et donc, Israël peut espérer fissurer un tout petit peu ce camp-là. Israël peut continuer probablement à travailler avec la Chine et avec l'accord américain tant qu'elle ne franchit pas les lignes rouges, donc tant qu'il s'agit de vendre des technologies agricoles, biologiques, et entrer à la santé, au retraitement des déchets. Je veux dire, personne au monde peut empêcher un pays d'aider un autre à améliorer la vie quotidienne de ses citoyens. De même, avec avec l'Iran, Israël ne peut toujours montrer que l'Iran reste un danger. Et la preuve, c'est que les Américains ont accepté de faire des manœuvres militaires. Donc, on voit bien que les Américains hésitent encore à l'attitude à avoir avec l'Iran et se préparent aux deux éventualités, soit signer un accord qui sera mauvais, soit se préparer à une alternative qui est tout aussi mauvaise, mais bon, à laquelle il faut se préparer. Donc voilà un petit peu l'idée fondamentale d'Israël. Et puis elle a un territoire sur lequel Israël a une place très importante, c'est le Moyen-Orient et c'est ces fameux accords d'Abraham. Alors, dans ces accords d'Abraham, on voit bien que ça intéresse les Américains. D'ailleurs, c'est les Américains qui l'ont mis sur place, ces accords, hein. C'est grâce aux Américains, grâce à Trump, que ça a été signé. Et les Américains, en fait, avec ces accords d'Abraham, se soulageaient d'un grand problème, c'est comment rester au Moyen-Orient tout en s'en éloignant un petit peu. Donc, en mettant ensemble les meilleurs amis des Américains, c'est-à-dire d'un côté Israël, de l'autre côté les pays du Golfe, en disant travaillez ensemble à faire une sorte de concertation pour vous protéger de l'Iran. Nous, on restera plus loin, mais on vous fournira tout ce qu'il faut en information, en armes et en argent pour que vous teniez tête à l'Iran, mais de loin. Donc, si vous voulez, les accords d'Abraham, c'était une solution pour les Américains autant que pour Israël. Mais pour la Chine, ces accords d'Abraham sont devenus une source tout à fait intéressante d'opportunités économiques. Et on a vu les Chinois se rendre en Arabie Saoudite, continuer à acheter du pétrole principalement aux États arabes unis et à l'Arabie saoudite, et à leur fournir énormément de choses. Donc, si vous voulez, Israël se trouve à la fois au Moyen-Orient, à la fois avec les Américains, avec les Chinois, parle aux deux en même temps. Donc, c'est une certaine facilité pour Israël de jouer un rôle un petit peu d'intermédiaire en attendant des meilleurs temps et en permettant ainsi de fissurer un peu ce bloc des autocrates en disant à la Chine, au fond, vous êtes une nation responsable, les autres ne le sont pas, donc on peut continuer quand même à travailler avec vous et même les Américains sont d'accord. Oui, c'est un peu cette idée-là.
Alors Daniel, vous disiez que le camp des autocrates n'était pas si solide que ça, mais alors est-ce qu'on peut dire que le camp des démocrates, il est plus soudé justement que le camp des autocrates?
Non, et donc les Chinois, eux aussi, regardent le camp des démocrates et se demandent comment le fissurer. Et évidemment, un des joints qu'ils peuvent mettre dans le camp des démocrates, c'est entre les Américains et tous les autres. C'est-à-dire bien sûr Israël, mais aussi les Européens et aussi les Japonais, parce que Européens, Japonais, Israéliens ont tous envie de travailler avec la Chine. D'autant que les Américains continuent aussi. Donc, ils veulent pas être les dindons de la farce. Donc, si vous voulez, la Chine peut jouer là-dessus en offrant à Israël, aux Européens et aux Japonais des possibilités de travailler avec elle, qui fait que, au fond, ces pays-là vont dire aux Américains, bon, on est avec vous. Mais concentrons nos efforts contre l'Ukraine, concentrons nos efforts contre l'Iran, mais pas forcément contre la Chine. Et vous voyez, cette évolution donne en filigrane l'idée que peut-être cette nouvelle configuration du monde entre deux camps, comme au fond, les Américains n'ont pas envie qu'ils deviennent des blocs. Faut pas que les camps deviennent des blocs. Les blocs idéologiques, on les a connus, c'était la guerre froide. Vous en souvenez. Bon, je crois que les Américains peuvent constituer des camps, mais veulent pas constituer des blocs. Et quand Xi Jinping et Biden se sont rencontrés, ils ont dit, surtout, on veut pas la guerre froide. Donc, on veut pas le retour au bloc. Donc, ces deux camps-là resteront un petit peu, comment dire, flous. Et au fond, on va voir se développer plusieurs choses. Chacun des camps va essayer d'attirer les autres, des pays libres. Vous savez ce qu'on appelle les pays émergents. L'Indonésie, la Colombie, la Turquie, beaucoup de pays, l'Inde, beaucoup de pays qui hésitent à choisir un camp, qui sont un peu neutres. Et donc, les Chinois viennent avec une offre extrêmement intéressante en disant, nous avons un système qui fonctionne bien chez nous, qu'on appelle l'économie socialiste de marché ou le socialisme au cœur de la Chine. Et en plus, on vous demande jamais, on vous parle jamais de démocratie et de droits de l'homme comme le font les Américains. Donc, on est un meilleur fournisseurs d'idées que les Américains, parce que nous, on n'y met pas de conditions, on vous laisse tranquille. Et donc, c'est ce grand jeu qui est en train de se faire. Et Israël peut avoir, lui aussi, qui n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires intérieures, qui sont bien compliquées aujourd'hui, peut aussi être le pays qui, parlant aux deux, est à la fois dans le camp des démocraties, bien entendu, mais parle aux Chinois. Les Chinois savent que c'est un bon messager vis-à-vis des Américains, peuvent jouer un rôle dans tous les efforts qui sont faits pour éviter que les camps deviennent des blocs, et peut-être qu'un jour, les camps puissent se reparler et aboutir à une forme de compromis qui nous permettrait de retourner vers un ordre mondial qui nous éloigne de ce chaos actuel qui est évidemment plein de dangers.
Merci beaucoup Daniel Haber pour tous vos éclairages comme d'habitude. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.